Donc une question un peu plus polémique, c'est un peu le rôle de l'Opus Dei donc au sein du Vatican. Et ma seconde question, ça serait pourquoi avoir créé l'Opus Dei et pourquoi Jean-Paul II a-t-il eu a voulu bénéficier de l'Opus Dei ou a aidé un peu l'Opus Dei donc à avancer au sein du Vatican et avoir une influence un peu partout. Merci.
Alors avant de répondre à la question polémique, une considération préalable. Ou si vous voulez, si vous me permettez, une exhortation, une invitation. Ne vous contentez jamais de ce que vous lisez dans les journaux. Et quand vous voulez savoir quelque chose, prenez les moyens de vous informer. Vous savez, de lire ce que Henri Tinck écrit dans Le Monde, ou de lire Dan Brown, qui écrit Le Code da Vinci, etc., c'est pas un critère de formation. Donc ne vous contentez jamais de ce que vous entendez à la télé ou de ce que vous lisez dans les journaux. Moi, je n'ai rien pour, je n'ai rien contre l'Opus Dei. La question peut être la même. Pourquoi le pape a voulu soutenir, les béatitudes ou les légionnaires du Christ plutôt que l'Emmanuel ou Shalom? Quand on va regarder au Vatican combien sont les gens de l'Opus Dei qui travaillent, on voit qu'il y en a pas plus que ceux qui sont issus d'autres communautés ou associations ou organisations. Il y a eu tout un moment où les médias ont dit, voilà, la puissance grandissante de l'Opus Dei à l'intérieur du Vatican, Jean-Paul II il en met partout, etc. Quand vous allez voir, il n'y en a pas plus que d'autres. Qu'est-ce que fait l'Opus Dei à l'intérieur de l'Église? Bon, c'est une association comme tant d'autres, avec sa spiritualité, avec sa manière de vivre l'Évangile. Je l'ai dit tout à l'heure quand on parlait des communautés nouvelles, on ne peut pas dire... L'Opus Dei est une communauté nouvelle, et ils sont beaucoup plus âgés comme fondation que les communautés des années 70, mais c'est une association de prêtres et de laïcs qui essayent de vivre l'Évangile selon ses caractéristiques. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, on peut les apprécier plus ou moins. Ils ont leur place comme tous les autres. Je ne pense pas honnêtement qu'on puisse dire qu'ils ont eu une place, ou qu'ils occupent encore une place privilégiée au sein de la curie romaine ou dans les passages de gouvernement central de l'Église. Il y a plusieurs personnes qui apportent, je vous l'ai dit, leur expérience, leur vision des choses, leur culture, leur sensibilité. Et ça fait une grande richesse. Parfois, c'est un peu difficile de composer les différentes richesses. Hein? Mais on l'a dit, tout ce qui est différent nous fait peur. Mais c'est vraiment une grande richesse, la différence. Imaginez-vous combien monotone serait notre monde et même notre Église si nous pensions tous de la même manière, si nous étions tous aux béatitudes, si on était tous charismatiques. Ce serait mortel. Non pas parce qu'on est charismatique, mais parce qu'il n'y aurait plus de différence. Alors, il y a des formules différentes et c'est ça qui est beau, même si parfois c'est un peu incommode.
Moi, j'aurais voulu savoir s'il y avait des femmes à la curie romaine et si oui, quel est leur rôle et est-ce que le point de vue de la féminité a un poids au sein de ce monde d'hommes ?
Un poids,
une importance au sein de ce monde plutôt d'hommes avec les prêtres ?
Oui. Alors bien sûr, il y a des femmes à la curie romaine qui travaillent dans les différents bureaux, soit des religieuses, soit des femmes normales. Je ne veux pas dire que les religieuses ne soient pas des femmes... Pardon, ce sera. Je veux dire, il y a des femmes religieuses ou laïques, voilà, c'est mieux. Hein, c'est mieux. Il y en a de plus en plus. Après le concile, dans les années 70, elles étaient très très peu nombreuses. Et c'était des secrétaires, pas plus. Après, au fur et à mesure, même la curie s'est organisée et elle a été attentive aux demandes et aux exigences du monde moderne. Les femmes ont, comment dirais-je, la quantité des femmes et la qualité aussi a augmenté. Donc on a des femmes en responsabilité. Ben, vous savez, elles ne sont pas prêtres, hein? C'est pas une nouveauté. ne sont pas prêtres, donc ils ne sont pas évêques. Donc ils n'ont pas les plus hautes responsabilités, mais d'après les différentes compétences, et pensez par exemple au Conseil pontifical pour la justice et la paix. Donc toute la présence de l'Église au niveau des instances internationales pour la promotion de la justice et de la paix. L'ONU, le dialogue qu'on fait par exemple à l'ONU ou lors des conférences internationales des Nations Unies, etc. Mais il y a des femmes. Quand le Saint-Siège a participé à la conférence internationale de l'ONU sur la femme à Pékin 95, mais le chef de la délégation du Saint-Siège était une femme. C'était le professeur Marianne Glendon, une Américaine.